Théologie biblique, Saint-Jeudard, 1984-1985, le 11 juin 1985.
Nous allons continuer la lecture de l'Exode en essayant de comprendre toujours, c'est ça qu'on doit essayer de saisir, à la fois ce qu'est le médiateur, Moïse, ce grand médiateur, et en même temps ce que représente l'aspect religieux, on peut dire l'alliance qui nous relie à Dieu. Alors, nous avions au chapitre 33, je crois, les nouvelles tables de loi, c'est chapitre 34. Hein. 34, hein. C'est bien ça. Yahvé dit à Moïse, taille pour toi deux tables de pierre comme les premières. J'écrirai sur les tables de pierre, sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisé. Mais Dieu ne fait aucun reproche à Moïse, hein, cette sainte colère. Je souligne, hein, il y a des colères saintes que Dieu ne reproche pas à ses médiateurs. Hein. C'est important de se le rappeler. N'est-ce pas ? Qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et alors, les secondes tables, c'est très curieux, c'est mystérieux. Pourquoi ? Ces secondes tables, Dieu demande à Moïse de les tailler, et les premières non. Il y a sûrement des raisons, hein. C'est, rien n'est laissé au hasard, hein, dans ces paroles-là. Sois prêt pour demain matin. Tu monteras le matin au mont Sinaï et tu te tiendras là pour moi, au sommet de la montagne. Tenir pour présent à Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Donc dans une attitude d'adoration et de contemplation. Que personne ne monte avec toi. Que personne même ne paraisse dans toute la montagne, que le bétail même, petit et gros, ne paraisse pas du côté de cette montagne. Alors, ça, le mystère de la solitude et de l'exigence de la solitude. C'est assez nouveau, ces choses-là, hein, et c'est par rapport à ce qui a été dit précédemment. Alors, est-ce qu'il y a comme une espèce de reprise de ce qui avait été en premier, avec une coopération plus grande de Moïse. Moïse est dans une passivité plus grande pour la première fois. Ici, il demandait une coopération plus grande. Je crois ce qui va vers l'alliance nouvelle. Dans l'alliance nouvelle, la gratuité est plus grande et la coopération est plus grande. Et les deux choses vont ensemble. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières, puis Moïse se leva de grand matin, monta au mont Sinaï, selon ce que lui avait commandé Yahvé, et il prit en sa main les deux tables de pierre. Yahvé descendit dans la nuée, et Moïse se tint là avec lui, et il invoqua le nom d'Yahvé. Yahvé passa devant lui et cria, « Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant !» Alors, voyez là la théologie des attributs de Dieu, des qualités de Dieu qui commence. Hein. C'est quand même important. On a déjà vu au début de l'Exode le grand mystère de la miséricorde. Hein. Je vous ai dit en théologie biblique ce qu'il serait intéressant quand on lit toute l'Écriture de pouvoir comprendre comment chacun des livres de l'Écriture nous révèle un des aspects particuliers du mystère de Dieu, un des attributs particuliers du mystère de Dieu. Il n'y a pas de répétition. Et chaque fois, on entre davantage dans le mystère de Dieu. L'Exode, c'est très nettement l'entrée dans le mystère de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu se sert d'un intermédiaire. Saint Thomas fait le lien entre la médiation et la miséricorde. Si Dieu se sert d'un médiateur, c'est pour aller plus loin dans la miséricorde. Ça, c'est aussi très très beau comme principe d'économie divine. Et je crois que c'est très vrai, c'est un grand principe d'économie divine, ça. Et d'économie divine que nous devons comprendre, puisque nous sommes dans l'économie divine. Dieu se sert de nous, et Dieu se sert de nous comme médiateur, nous sommes tous des médiateurs, hein, pour exercer une miséricorde plus grande. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous pour exercer une miséricorde plus grande. Et alors le livre de l'Exode, c'est vraiment le livre de la révélation première de la miséricorde de Dieu. Yahvé passa devant lui et cria, Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en fidélité et loyauté, qui garde fidélité à des milliers et qui supporte faute, forfait et péché, mais ne laisse rien impuni, châtiant la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et la quatrième génération. Alors, on verra avec la grande révélation de la croix, la révélation de la miséricorde de Dieu et du Père qui va encore plus loin, parce qu'il ne fait pas supporter les peines des pères sur les fils. Ça, c'est la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et ça, c'est justement le caractère plus personnel que nous voyons dans l'alliance de Dieu avec l'homme. Plus Dieu nous regarde comme une personne, plus il nous regarde comme unique, et plus il peut nous faire la miséricorde. Tandis qu'au contraire, quand il regarde, quand il est encore dit ici, n'est-ce pas, châtiant la faute des pères sur les fils, ça prouve qu'on ne regarde pas la personne dans ce qu'elle a d'unique. On est encore relié à son Père. Il y a donc quelque chose qui n'est pas uniquement le mystère de la personne humaine. Et je crois que c'est ça qui caractérise la miséricorde de Jésus, la miséricorde du Fils bien-aimé, la miséricorde sacerdotale de Jésus, la médiation sacerdotale du Christ. C'est que nous sommes tous seuls en face de Dieu. Il y a déjà cet aspect de solitude, hein, qui est si impressionnant à l'égard de Moïse. Mais cependant, il reste encore ça. Moïse, en toute hâte, s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. En toute hâte, hein, comme Marie. Et ici, il s'agit de l'attitude religieuse et de l'attitude d'adoration. Puis il dit, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, daigne, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, daigne le Seigneur marcher au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton héritage. Il avait dit, voici que moi, je vais conclure une alliance devant tout mon peuple. Je ferai des merveilles qui n'ont été produites dans aucun pays, ni dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu te trouveras verra l'œuvre de Yahvé. Car terrible est ce que je vais faire avec toi. Donc l'œuvre, l'opus, hein, l'œuvre de Dieu, l'opus Dei. Prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Voici que je vais chasser devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Périsites, les Hivites, les Yébouséens. Garde-toi de conclure alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. Au contraire, leurs autels, vous les abattrez, leurs stèles, vous les briserez, et leurs pieux sacrés, vous les couperez. Alors vous voyez, l'inverse de l'œcuménisme, hein, quand même le voir, c'est très net, c'est intéressant pour l'économie divine de comprendre ça, alors que actuellement l'Église, l'Esprit Saint demande à l'Église, avec Vatican II, regardez ce qui est dit Vatican II sur tous les peuples qui sont autour de l'Église, c'est juste son regard inverse, vous voyez. Il ne pouvait pas dire Vatican II se trompe, le Saint-Esprit ne dit pas, non, non, non. L'Esprit Saint passe à travers Vatican II, comme l'Esprit Saint passe à travers l'Exode. Et donc c'est vrai des deux côtés, mais c'est deux choses différentes. D'un côté, la miséricorde va jusqu'au bout, et de l'autre côté, la miséricorde, on ne peut pas dire qu'elle va jusqu'au bout, elle est encore imparfaite. Et puis, il y a une intention différente, et c'est cette intention différente aussi qu'on doit regarder. Garde-toi de conclure alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer. L'intention, c'est de garder pur le mystère de l'adoration à l'égard de l'unique vrai Dieu. Le peuple d'Israël doit garder jalousement cette alliance à travers tout et plus que tout. Tandis que l'Église, ayant toute la lumière du Christ, peut devenir source de lumière pour les autres. Tandis qu'on ne leur demande pas d'être source de lumière pour les autres, on leur demande de garder. C'est ce que me disait très joliment un rabbin, grâce aux catholiques, grâce aux chrétiens, la parole de Dieu a été communiquée au monde entier. Nous ne pouvons pas. Et je crois que c'est très juste, c'est exact ça, c'est exactement ce qu'on voit ici, et ce qui nous est montré ici. Car tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Yahvé, en effet, a pour nom jaloux. C'est un Dieu jaloux. Ne conclue pas alliance avec les habitants du pays, de peur qu'ils ne t'invitent. Quand ils se prostituent à la suite de leur Dieu et leur sacrifice, et que tu ne manges de leur sacrifice, de peur aussi que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, en se prostituant à la suite de leur Dieu, ne fassent prostituer tes fils à la suite de leur Dieu. Vous voyez, la jalousie de Dieu, et la jalousie de Dieu se traduit de cette manière-là. La jalousie de Dieu se traduit autrement en terre chrétienne, par le Christ. C'est toujours le Dieu jaloux. Mais le Dieu jaloux, ça peut se comprendre de deux manières différentes. Le Dieu jaloux ici, c'est Dieu qui se réserve son peuple. C'est son peuple. Et donc il se le réserve. Il se le réserve pour qu'il garde dans une très grande pureté le mystère de l'adoration. Le peuple d'Israël a comme, j'allais dire, comme exigence fondamentale de garder l'adoration du seul, unique, vrai Dieu. Et là, Dieu exerce sur lui sa divine jalousie en le séparant des autres. C'est déjà de la séparation à l'égard des autres. Tandis que la jalousie d'amour que Jésus exerce sur l'Église, c'est de faire que l'Église soit source de plénitude d'amour et qu'alors elle attire les autres vers elle. Tu ne te feras pas des dieux de métal fondu. Tu observeras la fête des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes, comme je te l'ai commandé au temps fixé du mois d'Abib. Car c'est dans le mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout être sorti le premier du sein est à moi. Tout mâle de ton troupeau, premier-né de vache ou de brebis, l'âne sorti le premier du sein, tu le libéreras par une tête de menu bétail. Je vous dis, c'est aussi très intéressant de voir ça. Le grand mystère de la théologie de la libération, qu'il faut aussi découvrir ici. Tout ça en raison même de Dieu qui a libéré son peuple. Ça fait partie aussi de l'Exode, la théologie de la libération. Parce que c'est Dieu, c'est Moïse qui sauve. Et alors, la première libération, c'est quand même cette libération à l'égard de l'esclavage, à l'égard de la tyrannie. Alors la conséquence de cette libération, l'âne sorti le premier du sein, tu le libéreras par une tête de menu bétail, que si tu ne le libères pas, tu lui briseras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le libéreras, et on ne paraîtra pas devant moi les mains vides. Pendant 6 jours, tu œuvreras, mais le 7e jour, tu chômeras. Même au temps du labour et de la moisson, tu chômeras. Tu célébreras aussi la fête des semaines, des premiers fruits de la moisson des blés, puis la fête de la récolte au tournant de l'année. Là, c'est la reprise de tout. C'est Dieu qui donne comme un... si vous voulez, une règle de vie au point de vue religieux, une liturgie, première liturgie révélée par Dieu à l'égard de son peuple. Trois fois dans l'année, toute la population mâle paraîtra devant le Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi et j'élargirai ton territoire. Et nul ne convoitera ton pays quand tu monteras pour paraître devant Yahvé ton Dieu trois fois dans l'année. Donc c'est Dieu qui se fait le gardien. Si le peuple est obligé d'aller adorer Dieu, donc à ce moment-là de quitter son pays, c'est Dieu lui-même qui sera là pour l'aider, pour garder sa terre. Tu n'immoleras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la victime de la fête de Pâques ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison d'Yahvé, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ça, c'est très important. Toutes les questions de non-mélange, signe de la pureté, tout le point de vue liturgique est quelque chose de très très important parce que ça doit éduquer. Alors, c'est l'éducation religieuse, c'est Dieu qui éduque, qui peut faire des êtres religieux. Et ça c'est très vrai. Le chrétien, s'il n'est pas un être théologal, n'est rien du tout. C'est un fait. Nous ne sommes pas aussi religieux que le peuple d'Israël. Il faut le reconnaître. Le peuple d'Israël a des mœurs religieuses que Dieu a enfoncées très très profondément. Le chrétien, c'est avant tout la foi, l'espérance et la charité. Alors, à partir de là, il doit y avoir une attitude religieuse, c'est bien évident, mais l'attitude religieuse est seconde, elle n'est plus première. Tandis que ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment Dieu qui éduque du côté religieux, qui veut faire de son peuple un peuple religieux, un peuple qui a le sens de la jalousie de Dieu sur lui. Alors c'est tous ces préceptes de sacrifice, ces préceptes même au point de vue de la mendication, vous voyez que ça prépare quand même tout le mystère de l'Eucharistie. Notre seul précepte de mendication pour nous, c'est l'Eucharistie. Et c'est dans la foi, l'espérance et l'amour. Tandis qu'ici, non, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Yahvé dit à Moïse, écris pour toi ces paroles. Ce serait intéressant de les voir, hein. Nous n'avons pas le temps, parce que je voudrais quand même terminer l'Exode. Alors, nous n'avons pas le temps de le voir, mais ce serait très intéressant. Celui qui s'intéresse à ce que représente une éthique religieuse, hein. Une éthique religieuse. Une éthique religieuse qui n'est pas seulement une éthique religieuse, qui est plus, parce qu'il y a le commandement de Dieu. C'est Dieu qui donne ses préceptes, hein. C'est pas l'homme qui les découvre. C'est toute la différence avec les pythagoriciens. Les pythagoriciens découvrent qu'il ne faut pas prendre de fèves. Hein? Mais ça, c'est eux qui découvrent ça, par mode d'expérience. Tandis que, au contraire, le peuple d'Israël, c'est directement le commandement de Dieu. C'est Dieu qui donne un commandement et qui veut que la jalousie de Dieu se traduise à travers toute l'attitude religieuse. Yahvé dit à Moïse, écris pour toi ces paroles. C'est en effet conformément à ces paroles que je conclus alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec Yahvé 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et il écrit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Il y avait 40 jours. Hein. C'est magnifique, c'est 40 jours. Hein. Mon marin. Vous voyez, alors, sans manger ni boire, faites pas ça, hein, parce que ça on ne peut le faire que si Dieu est là et qu'il nous le commande. Hein. Autrement, vous viendrez tous fous, soi-disant comme Moïse, mais pas du tout de la même façon. Or, quand Moïse descendit du mont Sinaï, Moïse avait dans sa main les 2 tables de témoignage quand il descendit du mont Sinaï. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait d'avoir parlé avec lui. Et quand Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, Voilà que rayonnait la peau de son visage. Et ils eurent peur de s'avancer vers lui. C'est le mystère de la transfiguration, vous voyez. Moïse est transfiguré par la présence. Ce mystère de rayonnement de la gloire de Dieu sur Moïse, sur son médiateur. Et Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté revinrent alors vers lui. Et Moïse leur parla. Après quoi tous les fils d'Israël s'avancèrent. Il leur commanda tout ce dont avait parlé avec lui Yahvé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut achevé de parler avec eux, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant Yahvé pour parler avec lui, il ôtait le voile. Jusqu'à ce qu'il sortît. Puis il sortait et disait aux fils d'Israël ce qu'il lui avait été commandé. Mais à partir de ce moment, il y a une espèce de divine familiarité entre Moïse et Yahvé, qui fait que chaque fois que Moïse doit consulter, immédiatement, son visage est rayonnant de Dieu, et donc il y a une présence mutuelle qui se fait entre Moïse et Dieu et Yahvé. Les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse qui rayonnait, la peau du visage de Moïse. Moïse ramenait alors le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Moïse assembla, chapitre 35, Moïse assembla toute la communauté des fils d'Israël et leur dit, voici les choses que Yahvé a commandé de faire. Pendant 6 jours, on fera du travail, mais le 7e jour, il y aura pour vous une chose sainte, un sabbat, un repos sabbatique pour Yahvé. Quiconque fera du travail en ce jour sera mis à mort. Et notre repos du dimanche, hein, il est loin de ça. C'est très, très... Il y a des choses désolantes, hein. Et en même temps, il faut comprendre que c'est une libération intérieure. Mais s'il n'y a pas l'intériorité, il n'y a plus rien. Un chrétien qui ne vit pas intérieurement, il n'y a plus rien. Tandis qu'Israël, il y a la loi qu'il maintient. Voici les choses que Yahvé a commandé de faire. Pendant 6 jours, on fera du travail. Mais le 7e, il y aura pour vous une chose sainte, un sabbat, un repos sabbatique pour Yahvé. Quiconque fera du travail en ce jour sera mis à mort. Vous n'allumerez pas de feu en aucun lieu où vous habiterez le jour du sabbat. Oui, ça exige pour la cuisine, hein, quelque chose d'assez bien. Alors, c'est intéressant de voir, voyez, le sabbat qui existe avant Moïse, hein, Jésus le dit, mais Moïse formalise le sabbat. Et c'est ça le propre de la loi, c'est de formaliser. Et ça, c'est propre de Moïse. Moïse formalise tout. Hein? C'est le religieux par excellence. C'est très curieux. Le religieux par excellence, il formalise. Il a besoin de formaliser. Parce que le religieux donne des mœurs religieuses, hein, et des mœurs religieuses qui impliquent justement que tout, aussi bien les paroles que les actions, doivent être vies dans une orientation. Moïse dit à toute la communauté des fils d'Israël, voici la chose qu'a commandé Yahvé en ces termes, prenez de chez vous un prélèvement pour Yahvé. Quiconque y est poussé par son cœur apportera le prélèvement de Yahvé, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi, du lin fin et des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des baumes pour l'huile de l'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx. Et des pierres à sertir pour l'éphod et pour le pectoral. Voyez, vous retrouvez ce qui avait été commandé précédemment et qui est commandé de nouveau. C'est très... fréquent, et c'est là où on peut dire que, vous voyez, si je parle ça d'un point de vue logique, je dirais ça ne va plus du tout. On avait demandé de tout donner pour le veau d'or. Il y a des réserves encore. Hein. C'est comme les impôts. Hein. Qu'il n'y ait plus d'or. Tout le monde dépose son or. Hein. Tout le monde. C'est pour recommencer ça plusieurs fois, parce qu'on sait qu'il y en a tout le temps. C'est très curieux, et c'est intéressant. Alors quand il s'agit de préceptes religieux, c'est plus délicat. Que tous ceux qui, parmi vous, sont habiles, viennent exécuter tout ce qu'a commandé Yahvé. La demeure, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes, ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile du rideau, la table, ses barres, tous ses accessoires et le pain de la face. Le candélabre du luminaire et ses accessoires, ses lampes et l'huile du luminaire, l'autel de l'encens et ses barres, l'huile de l'onction et l'encens aromatique, le rideau de l'entrée pour l'entrée de la demeure, l'autel de l'holocauste et son grillage de bronze, ses barres et tous ses accessoires, le bassin et son support, les tentures du parvis, ses colonnes et leur socle, le rideau de la porte du parvis, les piquets de la demeure et les piquets du parvis, ainsi que leurs cordes, les habits d'apparat pour officier dans le lieu saint, les habits sacrés pour Aaron, le prêtre, et les habits de ses fils pour exercer le sacerdoce. Vous voyez que Aaron demeure, malgré son égarement. Quand toute la communauté, c'est la reprise de tout, vous voyez, qui avait été donné avant, tout ce qui avait été dit avant est repris, j'allais presque dire, difficile de voir ces deux mesures-là, mais il y a presque ça, vous voyez, il y avait une première description progressive de toutes les exigences de la vie religieuse. Puis quand Moïse est au sommet, alors comme dans un regard de sagesse, c'est normal, hein, on est dans une attitude religieuse. Alors, il y a une recherche, et puis il y a le regard de sagesse. Et le regard de sagesse, c'est quand Moïse, lui, a vécu auprès de Yahvé pendant 40 jours et 40 nuits, 40 nuits, alors il peut tout reprendre dans une grande vision de sagesse, toute différente de la première. Ce n'est pas une répétition, hein, c'est une reprise de sagesse. Et je crois que ça, c'est très important de souligner. Quand toute la communauté des fils d'Israël se fut retirée de devant Moïse, chacun de ceux que leur cœur y portait, tous ceux que leur esprit y poussait, vinrent rapporter le prélèvement de Yahvé pour le travail de la tente, pour le travail de la tente de la rencontre, et pour tout son service, ainsi que pour les habits sacrés. Alors soulignez bien, ce n'est pas un commandement n'importe lequel. Quand toute la communauté des fils d'Israël se fut retirée de devant Moïse, chacun de ceux que leur cœur y portait. Il y a les commandements de Dieu et puis il y a les conseils. Et là, c'est un conseil. Le prélèvement n'est pas donné comme un ordre. C'est ce que leur cœur y portait, tout ce que leur esprit y poussait. Ça, c'est beau de voir ça. Vous voyez, l'annonce un tout petit peu, qu'on retrouvera alors très très fortement dans l'Évangile, de façon beaucoup plus nette, les conseils évangéliques et puis les commandements. Et vous le trouvez déjà ici, hein, comme une espèce de surabondance, d'exigence nouvelle, plus profonde. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux que leur cœur y poussait apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues et des boules. Toutes sortes d'objets d'or, chacun de ceux qui avaient voué une offrande d'or à Yahvé, chacun de ceux chez qui se trouvait de la pourpre violette et de la pourpre rouge, du cramoisi, du lin fin et des poils de chèvre et des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, chacun les apporta. Tous ceux qui avaient prélevé un prélèvement d'argent ou de bronze apportèrent le prélèvement de Yahvé. Et tous ceux chez qui se trouvaient des bois d'acacia pour tout le travail du service les apportèrent. Toutes les femmes habiles filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé. la pourpre violette et la pourpre rouge, le cramoisi et le lin fin. Toutes les femmes que leur cœur y portait, en raison de leur habileté, filèrent les poils de chèvre. Les princes apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à sertir pour l'éphode et pour le pectoral. Le baume et l'huile pour le luminaire, pour l'huile de l'onction et pour l'encens aromatique. Tous les hommes et toutes les femmes que leur cœur poussait à contribuer à tout le travail que Yahvé, par le ministère de Moïse, avait commandé d'exécuter, apportèrent en fils d'Israël une offrande volontaire pour Yahvé. Vous voyez l'insistance, hein? Une offrande volontaire, tout ce que leur cœur et leur esprit. C'est très très beau pour bien comprendre, hein, qu'il y a la loi et puis il y a l'appel de l'éducation du cœur. Et c'est déjà présent. Moïse dit aux fils d'Israël, voyez, Yahvé a appelé nommément Betsalel, fils d'Ouri, fils d'Our. Voyez, Yahvé a appelé nommément Betsalel, fils d'Ouri, fils d'Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, habileté, adresse et savoir-faire pour tout travail. Voilà l'Esprit de Dieu. Ça existe même au niveau manuel et au point de vue religieux. Vous voyez, alors, il est rempli d'Esprit de Dieu, habileté, adresse, savoir-faire pour tout travail, pour concevoir des œuvres d'art, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler la pierre à sertir. Ça, vraiment, là, on est en face de l'art religieux. Qu'est-ce que c'est qu'un art religieux? Ce texte est merveilleux pour montrer ça. C'est l'art religieux qui fait qu'on travaille tout pour le service de Dieu. Pour tailler la pierre à sertir et pour tailler le bois, pour exécuter tout travail d'art. Il a mis aussi dans son cœur le don d'enseigner, un enseignement alors nouveau. De même quand Oaliab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'habileté pour exécuter tout travail d'artisan et d'artiste. De brodeur sur la pourpre violette, sur la pourpre rouge, sur pourpre rouge, sur cramoisi, sur lin fin, ainsi que de tisserand. Ils peuvent exécuter tout travail et concevoir des œuvres d'art. Et c'est une espèce de Pentecôte. Hein. Vous voyez, c'est assez beau comme genre. C'est vraiment une espèce de mobilisation de tout le peuple en lui donnant un nouvel esprit. En donnant l'Esprit de Dieu pour que ce travail se fasse et que ce travail se fasse en commun pour glorifier Dieu. Bécalel, Oiliab et tout homme habile à qui Yahvé a donné habileté et adresse pour savoir exécuter tout travail destiné au service du lieu saint devront l'exécuter selon tout ce qu'a commandé Yahvé. Moïse appela Bécalel, Oiliab, et tous les hommes habiles que Yahvé avait gratifiés du don d'habileté. Ça fait partie des charismes, ça, hein, le don d'habileté. Sans doute, je présume. Il faut demander aux charismatiques s'ils ont le don d'habileté. Ça doit revenir, ça. Parce que c'est dit expressément, hein. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'aspect religieux. Et c'est l'aspect communautaire. Et c'est pour que, de fait, on puisse construire la maison de Dieu. Tous ceux que leur cœur portait à entreprendre le travail et à l'exécuter. Ils prirent de devant Moïse tout le prélèvement qu'avaient apporté les fils d'Israël pour exécuter le travail destiné au service du lieu saint. Mais ceux-ci lui apportaient encore chaque matin des offrandes volontaires. Tous les hommes habiles qui exécutaient tout le travail du lieu saint, quittant chacun le travail qu'il exécutait, vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il n'est suffisant pour l'exécution du travail qu'il y avait commandé de faire. Moïse commanda de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes, que personne, homme ou femme, n'œuvre plus pour le prélèvement du lieu saint. Et on empêcha le peuple de rien apporter. Les matériaux suffisaient pour tout le travail à exécuter. Il y en eut même de reste. Un petit détail pour montrer la générosité du peuple à l'appel de Dieu. On est obligé de freiner, c'est assez. C'est rare, hein, pour la quête. C'est très rare. C'est suffisant d'arrêter. Et ça, je crois que c'est pour nous faire comprendre comment Dieu veut faire de son peuple un peuple religieux. L'attitude religieuse implique la générosité. Hein. On n'est pas vraiment religieux. On donne tout, tout ce qu'on a. Tous les hommes habiles, parmi ceux qui exécutaient le travail, firent la demeure. Ils la firent de 10 toiles de lin fin retors, de pourpre violette, de pourpre rouge et de cramoisi, avec des chérubins, œuvres d'artistes. Ils les firent. Là-bas, c'est la construction de la demeure, hein. La demeure étant le premier moment, ne l'oublions pas, du temple. La demeure. Petite église. Les premières toutes églises avant d'arriver aux cathédrales. Et c'est vrai, on voit très très bien, même dans l'église, dans le développement de l'église, il y a ça, quand on voyait dans les premières églises, sont petites. Puis progressivement. Et c'est le sens religieux, ça. Alors les chérubines qui apparaissent ici, hein, les chérubins, œuvres d'artistes, il les fit. La longueur d'une toile était de 28 coudées et la largeur de 4 coudées pour une toile. Même dimension pour toutes les toiles. Il assembla 5 de ces toiles l'une à l'autre. Et il assembla 5 toiles l'une à l'autre. Il fit des brides de pourpre violette sur le bord de la première toile, à l'extrémité de l'assemblage. Ainsi fit-il sur le bord de la toile qui était à l'extrémité du second assemblage. Il fit 50 brides à la première toile et il fit 50 brides à l'extrémité de la toile du second assemblage, les brides se correspondant l'une à l'autre. Il fit 50 agrafes d'or et il assembla les toiles l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi la demeure forma un seul tout. L'image de l'unité du corps mystique, représentée de cette manière-là. Et c'est la toile assemblée, agrafée, qui montrait ce tout. Ainsi, la demeure forma un seul tout, symboliquement. Il fit des toiles en poils de chèvre, pour une tente au-dessus de la demeure. Il fit 11 de ces toiles. La longueur d'une toile était de 30 coudées, de 4 coudées la largeur d'une toile. Même dimension pour les 11 toiles. Il assembla à part 5 de ces toiles et à part 6 de ces toiles. Il fit 5 brides sur le bord de la toile qui était à l'extrémité de l'assemblage. Et il fit 50 brides sur le bord de la toile du second assemblage. Il fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente, afin qu'elle formât un seul tout. On ponctue bien, hein, et puis on en dit tous les détails possibles. Il fit pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge, et une couverture en peau de dauphin par-dessus. Il fit les planches pour la demeure en bois d'acacia posées debout. De 10 coudées était la longueur de la planche, et d'une coudée et demi la longueur d'une planche. On comprend très bien quand vous voyez ça et que vous voyez dans l'Apocalypse la grande vision de la Jérusalem céleste. Hein. Il y a un lien, ça c'est sûr. Il y a des liens entre les deux. Nous sommes très peu habitués, nous, hein. Nous n'avons plus beaucoup ça. Peut-être parce que nous avons trop intériorisé ou mal intériorisé. C'est évident qu'entre l'ancienne alliance, quand vous voyez ça, et la nouvelle alliance, vous voyez toute la différence. Notre temple, notre demeure, c'est le cœur de Jésus. Et tout ça, symboliquement, exprime le cœur de Jésus. Tout le temple exprime le corps du Christ et le cœur de Jésus. Puisque pour nous, c'est le cœur de Jésus. Oui. Alors, il y a une espèce de magnificence, de grandeur, quand on essaie de comprendre cela, quand on voit le symbolisme, hein, et quand on voit la fine pointe dernière. Alors, nous avons de la peine à comprendre, puisque nous voyons surtout l'intériorité dans l'ordre de l'amour, mais je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Ça fait partie du corps de l'homme. Un petit peu ce que je vous disais ce matin à propos du corps, dans une vision de sagesse. Dans une vision de sagesse religieuse, nous voyons bien comment ça permet à l'amour de rayonner, comment ça permet à l'amour d'atteindre toutes ses dimensions. Et je crois que c'est ça qui est impliqué là, qui nous est montré là. Vous voyez, quand on parle de la largeur, de la profondeur de l'amour du Christ, c'est de 10 coudées était la longueur de la planche, d'une coudée et demie la largeur d'une planche. Chaque planche avait 2 tenons joints l'un à l'autre. Ainsi fit-il pour toutes les planches de la demeure. Il fit les planches pour la demeure, 20 planches en direction du sud, vers le midi. Il fit 4 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous une planche pour ces 2 tenons, et 2 socles sous une planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté de la demeure, en direction du nord, il fit 20 planches, ainsi que leurs 40 socles en argent, 2 socles sous une planche et 2 socles sous une planche. Pour le fond de la demeure, vers l'ouest, il fit 6 planches. Il fit 2 planches pour les angles de la demeure, au fond. Elles étaient jumelées par en bas, et elles étaient également jumelles au sommet, au premier anneau. Ainsi fit-il pour elles deux, aux 2 angles. Il eut ainsi 8 planches, ainsi que leur socle en argent, 16 socles, 2 socles sous une planche et 2 socles sous une planche. Il fit des traverses en bois d'acacia, 5 pour les planches du premier côté de la demeure et 5 traverses pour les planches du second côté de la demeure. Ainsi que 5 traverses pour les planches de la demeure, au fond vers l'ouest. Il fit la traverse médiane pour qu'elle traversât au milieu des planches, d'une extrémité à l'autre extrémité. Les planches, il les recouvrit d'or. Leurs anneaux, pour loger les traverses, il les fit en or. Il recouvrit d'or les traverses. Il fit le voile de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de lin fin retors, œuvre d'artiste. Il les fit avec des chérubins. Il fit pour lui 4 colonnes d'acacia et il les recouvrit d'or. Leur crochet était en or et il fondit pour elles 4 socles d'argent. Il fit pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de lin fin retors, œuvre de brodeur, ainsi que ses 5 colonnes et leurs crochets. Il recouvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient en bronze. Bécaliel fit l'arche en bois d'acacia. De 2 coudées et demie était sa longueur, d'une coudée et demie sa largeur, d'une coudée et demie sa hauteur. Il la recouvrit d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et il lui fit une moulure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or pour ses 4 pieds. 2 anneaux sur son premier côté et 2 anneaux sur ce second côté. Il fit des barres en bois d'acacia. Il recouvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour les transporter. Donc vous voyez là la reprise divine par rapport au veau d'or. je crois que c'est quand même cela qui nous est montré. Le peuple avait besoin d'un signe. Il réclama le veau d'or, réminiscence d'Égypte. Brisure de ce veau d'or, et vous voyez que la répétition, tout est repris. Aaron avait recommandé qu'on apporte toutes les boucles d'oreilles, tout ce qu'on avait d'or et de précieux. Eh bien, Moïse réclame la même chose. Mais la seule différence, c'est que tout est ordonné en vue d'une architecture religieuse totalement consacrée à Dieu. Je crois qu'il y aurait là quelque chose d'important à saisir. La différence du veau d'or, toute hâte qu'on se disait. Et puis ici, l'ordre architectural. Il ne faut jamais l'oublier, l'architecture architectonnée. C'est l'art suprême. Et tout est pris dans un ordre et une harmonie. Et ce n'est pas, vous voyez, tout est en fonction de la présence de Dieu. Tout est commandé par la présence de Dieu. Alors que le veau d'or était lui-même, en quelque sorte, quelque chose de massif, et qui était pris avec sa propre présence. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, vous voyez, pour essayer de comprendre un peu, puisque ça nous est montré, on voit avant et après. Et ici, tout ça se fait sous la conduite de Moïse. C'est Moïse qui dicte ça de la part de Dieu. Et c'est bien Dieu qui reprend ce besoin du peuple d'avoir une présence symbolique de Dieu. Le temple, c'est la présence symbolique de Dieu. Et cette présence symbolique de Dieu qui est l'espace vital donné pour la présence de Dieu. Alors que le veau d'or était l'idole qui outrageait Dieu. Vu de l'extérieur, on dirait que c'est tout à fait la même chose, c'est deux choses à peu près, quoi. D'un côté, c'est un sculpteur, de l'autre côté, c'est l'architecte. Alors l'architecte est béni de Dieu et le sculpteur ne l'est pas, n'est-ce pas, si je prends matériellement les choses. Et pourquoi le sculpteur est-il maudit et pourquoi l'architecte est-il béni? Essayons de comprendre. C'est que d'un côté, tout est symbolique en vue de la présence de Dieu, et de l'autre côté, tout est ramené au peuple. D'un côté, l'idole, c'est ça, on demeure dans l'immanence. Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre architecturale de Dieu, est ouverte vers la transcendance. C'est d'un côté l'idole, et d'autre côté un art religieux. Et il y a un parallélisme qui est très étonnant. Il fit des barres en bois d'acacia, il les recouvrit d'or. Vous voyez, toujours il les recouvrit d'or. C'est pas d'or massif, très curieux. Il les recouvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour la transporter. Il fit un propitiatoire d'or pur. De deux coudées et demie était sa longueur, et d'une coudée et demie sa largeur. Il fit deux chérubins d'or. En métal repoussé, il les fit, aux deux extrémités du propitiatoire. Un chérubin à une extrémité et un chérubin à l'autre extrémité. Ça, c'est la présence de Dieu, les chérubins. C'est le mystère de la présence de Dieu. Et c'est le propitiatoire, et c'est le Saint des Saints, qui va devenir le Saint des Saints dans le temple. Le Saint des Saints, vous comprenez bien, l'annonce du cœur blessé de Jésus, symboliquement. Et ceci, c'est l'annonce du moment où, si vous voulez, de la présence la plus intense de Dieu pour son peuple. Il fit deux chérubins d'or en métal repoussé. Il les fit aux deux extrémités du propitiatoire. Un chérubin à une extrémité, un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins formant corps avec le propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins avaient les deux ailes déployées vers le haut, protégeant de leurs ailes le dessus du propitiatoire, leurs faces l'une vers l'autre. Les faces des chérubins étaient en direction du propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia. De deux coudées était sa longueur, d'une coudée sa largeur, et d'une coudée et demie sa hauteur. Il la recouvrit d'or pur et lui fit une moulure d'or tout autour. Mais toujours, ce point de vue de la moulure recouverte d'or, pas d'or massif. Alors que le veau d'or était d'or massif. Quelque chose au point de vue symbolique qu'il faut essayer de saisir, hein, parce que c'est la symbolique de l'art religieux et d'une attitude, d'un travail religieux. Il leur fit un panneau d'une palme tout autour. Il fit une moulure d'or à son panneau tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or et il plaça les anneaux aux quatre coins, ceux de ses quatre pieds. Puis, près du panneau étaient les anneaux pour loger les barres destinées à transporter la table. Il fit les barres en bois d'acacia. Il les recouvrit d'or pour transporter la table. Il fit les accessoires qui sont sur la table, ses plats et ses bols, ses patères et ses aiguillères avec lesquelles on fait les libations. D'or pur, il les fit. Il fit le candélabre d'or pur, en métal repoussé. Il fit le candélabre, ainsi que sa tige et ses branches. Ses calices, ses boutons et ses fleurs faisaient corps avec lui. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du candélabre de son côté droit, du premier côté, et 3 branches du candélabre de son second côté. Il y avait 3 calices en forme de fleurs d'amandier, sur une branche, avec boutons et fleurs, et 3 calices en forme de fleurs d'amandier, sur une autre branche, avec boutons et fleurs. Ainsi en était-il pour les 6 branches sortant du candélabre. Le candélabre avait quatre calices en forme de fleurs d'amandier, avec leurs boutons et leurs fleurs. Pour les 6 branches qui en sortaient, il y avait un bouton sous 2 branches, faisant corps avec lui. Leurs boutons et leurs branches faisaient corps avec lui, le tout d'un seul métal repoussé d'or pur. Il fit ses lampes au nombre de 7, ses mouchettes et ses cassolettes d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le candélabre ainsi que tous ses accessoires. Il fit l'autel de l'encens en bois d'acacia. Ça symbolise de l'or, hein, toujours le point de vue de la pureté et le point de vue du prix. Hein. L'or exprime l'amour, il ne faut pas l'oublier. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a tout un symbolisme assez étonnant de ce qui sera la révélation dernière, la blessure du cœur. Il fit l'autel de l'encens en bois d'acacia. D'une coudée était sa longueur, d'une coudée sa largeur. Il était carré, et de 2 coudées sa hauteur. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il recouvrit d'or pur sa partie supérieure, ses parois, tout autour de ses cornes. Il lui fit une moulure d'or tout autour. Il lui firent 2 anneaux d'or au-dessous de sa moulure, sur ses 2 côtés. Sur ses 2 flancs, pour loger les barres avec lesquelles on le transporterait. Vous voyez, comme on insiste sur l'aspect transporté, toujours. Le peuple d'Israël est en marche. Il n'y a pas de lieu fixe. Il est au désert. Il est en marche. Alors que le temple sera fixé. Ouais, 2 spiritualités différentes, hein. Et si c'est successif, on comprend très bien ça. Mais alors on insiste énormément sur ce fait. Hein. Il faut qu'on puisse le transporter. Et tout est prévu pour ça. Sa partie supérieure, ses parois tout autour et ses cornes. Il lui fit une moulure d'or tout autour. Il lui fit deux anneaux d'or au-dessus de sa moulure, sur ses deux côtés, sur ses deux flancs, pour loger les barres avec lesquelles on le transporterait. Il fit les barres en bois d'acacia, il les recouvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte, ainsi que l'encens aromatique pur, œuvre de parfumeur. Il fit l'autel de l'Holocauste en bois d'acacia. De 5 coudées était sa longueur, et de 5 coudées sa largeur. Il était carré, et de 3 coudées sa hauteur. Il fit ses cornes à ses quatre angles. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le couvrit de bronze. Il fit tous les accessoires de l'autel, les chaudrons, les pelles, les coupes à aspersion, ça c'est pour le sacristain, n'est-ce pas, les fourchettes et les cassolettes, tous ces accessoires, il les fit en bronze. Il fit à l'autel un grillage en façon de filet de bronze, sous son entablement depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fondit 4 anneaux aux quatre extrémités pour le grillage de bronze, pour loger les barres. Il fit les barres en bois d'acacia, il les recouvrit de bronze. Il introduisit dans ses anneaux, sur les côtés de l'autel, les barres avec lesquelles on le transporterait. Il le fit creux en planche. Il fit le bassin en bronze et son support en bronze, avec les miroirs des femmes de service qui faisaient le service à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis en direction du sud, vers le midi, les tentures du parvis en lin fin retors étaient de 100 coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. En direction du nord, il y avait des tentures sur 100 coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. En direction de l'ouest, il y avait des tentures sur 50 coudées. Leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. En direction de l'est, au levant, la largeur du parvis était de 50 coudées. Il y avait des tentures sur 15 coudées pour un côté, leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour le second côté, de part et d'autre de la porte du parvis, il y avait des tentures sur 15 coudées, leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les tentures du parvis, tout autour, étaient de lin fin retors. Les socles pour les colonnes étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et le revêtement de leurs chapiteaux était d'argent. Et elles étaient reliées par des tringles d'argent, toutes les colonnes du parvis. Le rideau de la porte du parvis, œuvre de brodeur, était de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi, de lin fin retors. Il avait 20 coudées de longueur et une hauteur de 5 coudées sur la largeur, tout comme les tentures du parvis. Leurs 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze, leurs crochets étaient d'argent, le revêtement de leurs chapiteaux et leurs tringles étaient d'argent. Tous les piquets pour la demeure et pour le parvis, tout autour, étaient de bronze. Voici l'état des comptes de la demeure du témoignage. Vous voyez, je crois que ce qu'il faut essayer de saisir, c'est que pas un détail n'échappe à ce jugement de sagesse, à ce jugement religieux. C'est toujours la liturgie, ça. Tous les détails comptent. Un homme religieux, un liturgiste, c'est ça, il sait la signification de tout. Alors évidemment, la signification ici est une signification symbolique qui prendra toute sa signification que dans le corps du Christ et le cœur blessé de l'agneau, et tout ça est repris dans la liturgie de l'Eucharistie. c'est le point de départ.